Bonjour, donc je suis Christophe Schmitt et donc au nom de du comité d'organisation, donc je vous souhaite la bienvenue et puis surtout je remercie nos collègues de Lille qui nous accueillent. On a travaillé pendant c'est presque 10 mois de préparation je dois saluer leur grand professionnalisme et puis donc aujourd'hui c'est le grand jour. C'est les 6e journée, on avait démarré les premières à Lille, donc là on refait une nouvelle étape à Lille, qui sait où on sera l'année prochaine, on verra bien. Et on avait souhaité tenir compte aussi à la fois de l'actualité dans la construction des journées, et puis on s'est dit que la question du diagnostic territorial de santé mentale était quand même à l'heure actuelle au cœur de nos préoccupations, avec peut-être justement la difficulté de construire ces fameux diagnostics. Donc on a la modeste ambition, en tout cas pas de vous aider à les construire, mais au moins de vous donner un certain nombre de clés et de réflexions concernant ces fameux diagnostics territoriaux de santé mentale. Donc là, sans plus attendre, je cède la parole à Magali Koldéfi, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui va nous faire une découverte de l'Atlas Santé.
Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité et particulièrement à Claude Maresco avec qui on aura partagé quelques années professionnelles en commun entre Paris, Lyon et Marseille. Donc voilà, ce que je vais vous présenter en fait c'est un atlas qu'on réalise avec en collaboration avec la DRES et l'IRDES. Enfin un atlas santé mentale, c'est pas un atlas santé. Donc je vais vous présenter qui est un outil justement utile, enfin on espère, pour contribuer à l'élaboration des diagnostics territoriaux partagés en santé mentale. Donc, comme je disais, c'est une collaboration DRES, IRDES et ainsi que l'ARS PACA, avec donc un appui technique d'Atlas Santé. Atlas Santé, c'est une plateforme, on va dire, d'information géographique qui est un projet inter-ARS, mais qui est ouvert à l'ensemble du public. Et donc, on s'appuie en fait sur leur support technique pour développer la version numérique de cet atlas. Donc, pour ce travail qui a commencé il y a plus d'un an, on a associé un comité de suivi qui était constitué des principaux producteurs de données, la TIH, la CNAM, la DRES, des institutions et administrations centrales, la DGS, la DGOS, le secrétariat général des ministères des Affaires sociales, la CNSA. Différents experts qu'on a mobilisés, donc il y a le centre de preuves en psychiatrie et santé mentale qui nous a accompagnés tout au long du projet, et puis des experts ponctuels qu'on sollicite, parce que vous verrez, l'Atlas est organisé sous forme de chapitres thématiques, notamment sur la partie ouvrage qu'on est en train de réaliser. Il y a également la NAP qui a participé, qui nous a accompagnés tout au long de ces travaux, donc à la fois pour l'expertise sur la thématique et pour l'idée que voilà, on avait des démarches parallèles et complémentaires et que c'était important de s'articuler. Et donc cet atlas psychiatrie santé mentale, il a deux supports, on va dire, de diffusion. Une version de cartographie numérique que je vais présenter essentiellement aujourd'hui et qui, partout sur ma présentation, j'ai mis en cours de construction. En gros, le site est déjà ouvert, mais il y a encore des corrections qui sont faites. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui sont disponibles, mais qui devraient être disponibles d'ici la mi-octobre. Enfin, c'est ce qu'on vise, fin octobre ou plus tard. Et un ouvrage où il y a une partie analytique, on va dire, sur chaque thématique qui, lui, sera disponible au début de l'année 2018. Donc, les objectifs de cet atlas, c'est en effet un outil pour les agences régionales de santé, mais surtout l'ensemble des acteurs des territoires, pour élaborer à la fois le projet régional de santé et les projets territoriaux en santé mentale. Donc, l'idée, c'était de fournir des éléments quantitatifs aux acteurs qui doivent établir les diagnostics territoriaux partagés en santé mentale, puisqu'en effet, c'est pas aux ARS de... Enfin, les ARS peuvent arriver en soutien pour fournir des éléments utiles au diagnostic, mais c'est aux ensembles des acteurs de santé de construire, d'établir ces diagnostics afin d'élaborer les projets territoriaux en santé mentale. Donc l'idée, c'était de fournir une série d'indicateurs à différentes échelles géographiques, mobilisant de nombreuses bases de données, puisque, comme ça a été rappelé en introduction, c'est vrai que c'était des diagnostics territoriaux partagés en santé mentale et pas seulement en psychiatrie. Donc l'idée, c'était de mobiliser l'ensemble des bases de données existantes dans les champs. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de données mobilisables sur le secteur hospitalier et sur le champ psychiatrique que dans les autres champs. Mais c'était voilà, essayer de faire parler le maximum de données et les mettre à disposition des acteurs. Surtout qu'on voilà, on sait que le champ de la psychiatrie, il est très bien connu par vous tous, mais que ce soit au sein des ARS ou au sein des observatoires régionaux de santé qui peuvent être mobilisés aussi pour aider à élaborer ces diagnostics, le champ de la psychiatrie n'est pas spécialement investi, enfin ou inégalement investi selon les territoires. Donc il y avait cette volonté, c'était d'aider un petit peu à faire connaître les données disponibles en utilisant des indicateurs spécifiques au champ de la santé mentale, donc avec une dimension pédagogique sur pourquoi on utilise plutôt tel ou tel indicateur, alors de besoin entre guillemets. Et il y avait aussi l'idée de valoriser l'ensemble des sources de données existantes qui sont nombreuses mais dispersées dans ce champ. Et donc oui, on a cherché à se coordonner avec les autres démarches en cours, donc comme je disais la NAP, donc Atlas Santé qui est ce système d'information géographique initialement à destination des ARS et les travaux du Conseil national de santé mentale. Donc, le décret qui est paru cet été, il a, on va dire, explicité les éléments qui devaient être contenus dans ce diagnostic territorial partagé en santé mentale. Donc, quand on lit le décret, le diagnostic doit prendre en compte les éléments suivants: l'accès de la population au diagnostic et aux soins psychiatriques, l'accueil et l'accompagnement par les établissements et services sociaux et médico-sociaux des personnes présentant des troubles psychiques ou en situation de handicap psychique, les situations de défaut de prise en charge et de prise en charge inadéquate ou insuffisante, la continuité et la coordination des prises en charge et des accompagnements, prenant en compte les réponses à apporter lors du passage à l'âge adulte et celles liées au vieillissement, les délais d'attente et les problèmes d'accessibilité géographique ou financière aux solutions adaptées, notamment de logement et d'hébergement, l'accès aux droits, l'accès aux soins somatiques et le suivi somatique des personnes présentant des troubles psychiques, la prévention des situations d'urgence psychiatrique et de souffrance psychique, ainsi que l'organisation de la réponse à ces situations, l'organisation de la permanence des soins, l'éducation à la santé, les actions de lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques et du handicap psychique, avec une attention particulière qui doit être portée aux situations, aux quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc on voit bien que le diagnostic, ce n'est pas simplement un état des lieux, des ressources sur un territoire et des besoins sur un territoire. Le diagnostic, il doit pouvoir... Enfin, il est censé pouvoir permettre d'aborder ces différents items. Donc on a essayé de voir quelles étaient les données mobilisables pour répondre, pour alimenter en tout cas les éléments attendus du diagnostic territorial partagé en santé mentale. Donc en effet, le premier consensus, c'est que les données dont on dispose ne vont répondre que partiellement au diagnostic territorial partagé. Par exemple, l'accès au diagnostic et aux soins psychiatriques. L'accès au diagnostic, on est incapable de le déduire des données disponibles. Autant on peut mesurer un recours aux soins psychiatriques, mais l'accès ou le délai d'accès à un diagnostic, c'est quelque chose qu'actuellement on n'a pas du tout dans les données. Donc on va essayer d'aborder quand même l'accès aux soins psychiatriques à partir des données de recours aux établissements de santé, aux professionnels libéraux, en mobilisant les bases de données classiques RIMP, PMSI, MCO, SSR éventuellement, le SNIRAM pour le recours aux professionnels de ville, sachant que même, par exemple, sur le recours au médecin généraliste pour un problème de santé mentale, les données de l'assurance maladie ne donnent pas le motif de consultation. Donc, s'il n'y a pas de délivrance de médicaments, on ne peut pas identifier un recours aux soins de santé mentale auprès des médecins généralistes. La question de l'accueil et l'accompagnement dans les établissements et services médico-sociaux et sociaux. Donc, pareil, on sait que le système d'information dans le champ médico-social, il est très en retard par rapport à celui du champ sanitaire. Donc, ce qu'on a fait, c'était au moins qualifier l'offre médico-sociale à partir donc, de l'enquête ES de l'adresse sur le handicap et le répertoire FINESS. Mais pareil, identifier les établissements accueillant des personnes en situation de handicap psychique, c'est pas si évident. Donc, nous, on a exclu de nos données, par exemple, les établissements qui accueillaient exclusivement des personnes avec un handicap moteur, avec un handicap sensoriel, en se disant que cela ne recevrait pas des personnes avec un handicap psychique. La question des situations de défaut de prise en charge, de prise en charge inadéquate ou insuffisante, la question de l'inadéquation, elle est difficile à objectiver par les données dont on dispose. Donc c'est vrai qu'on souvent dit l'exemple des hospitalisations au long cours, mais on sait très bien qu'il y a des hospitalisations brèves qui peuvent être inadéquates, des prises en charge à domicile qui peuvent être inadéquates. Donc ça va souvent être des proxys, on va dire, de situations inadéquates qu'on va pouvoir essayer de mesurer. Dans le même ordre d'idée, les questions de continuité et de coordination. C'est vrai que les systèmes d'information, ils sont cloisonnés, on va dire, autant que les cloisonnements qu'on peut observer entre secteurs sanitaires, social, médico-social. Donc on va essayer de les aborder indirectement avec des indicateurs qui visent à mesurer la coordination ville-hôpital, la continuité des soins après une sortie d'hospitalisation. Mais voilà, ça reste aussi une façon partielle d'aborder ces questions. La question des périodes de transition, passage à l'âge adulte, vieillissement. Donc nous, notre choix, ça a été de proposer des indicateurs par entrée populationnelle. On va voir qu'on aura la question des enfants adolescents d'un côté, la question des personnes âgées. Et au sein de la population adulte, on a aussi distingué les adultes souffrant de troubles, on va dire, modérés et fréquents, et les adultes souffrant de troubles sévères, pour lesquels, en fait, les indicateurs n'ont pas la même valeur derrière. La question des délais d'attente et de l'accessibilité géographique ou financière. Alors, aux solutions adaptées, notamment de logement et hébergement, les solutions adaptées, c'est un peu comme le côté inadéquat, c'est difficile de savoir. Enfin, la solution adaptée, elle est adaptée à une personne à un moment donné. On ne peut pas mesurer à partir des données l'adaptation d'une solution à ses besoins. Donc, du coup, on va se limiter à mesurer des temps d'accès, la part de professionnels libéraux exerçant en secteur non conventionné, et puis la précarité sur un territoire qui peut montrer des difficultés, on va dire, d'accessibilité financière aux soins. L'accès aux droits, qui est aussi un élément du diagnostic. Donc nous, on va pouvoir l'aborder uniquement avec les données sur les soins sans consentement, puisque même l'accès aux droits type prestation ou compensation du handicap ou ce type d'éléments qu'on aurait souhaité mobiliser, actuellement, on ne peut pas identifier le handicap psychique dans les données dont on dispose dans le champ médico-social. Bon, c'est un peu pessimiste, mais on essaye quand même de répondre à ces différentes questions. Donc l'accès aux soins somatiques et au suivi somatique, donc ça, on a essayé de l'aborder à travers des indicateurs de recours aux soins somatiques de personnes qui étaient suivies pour des troubles psychiques, à la fois les soins somatiques courants, des bilans somatiques qui sont recommandés pour les personnes qui ont des traitements, on va dire, médicamenteux liés aux troubles psychiques. On a aussi également essayé de calculer des indicateurs de recours à des actions de prévention type dépistage, vaccination, qui permettent d'aborder en partie ces questions. Et pour ces données-là, on a mobilisé donc les données de l'assurance maladie. Donc à l'IRDES, on disposait d'une cohorte de l'ensemble des patients hospitalisés en psychiatrie ou pour un motif psychiatrique pour lesquels on avait la consommation de soins de ville et hospitalière en amont et en aval de cette hospitalisation pendant 5 ans d'amont et 5 ans, enfin pas encore 5 ans d'aval. Et c'est des données qui, à terme, sont disponibles au sein des ARS dans le cadre du système national des données de santé. Donc c'est des indicateurs qui pourront être on va dire, actualisés, développés à d'autres échelles par la suite. Le diagnostic, il demande aussi la question de la prévention des situations d'urgence psychiatrique et de souffrance psychique. Donc ça, le champ de la prévention, enfin, et notamment dans ce cadre-là, il y a très peu de données qui nous permettent d'aborder cette thématique. L'organisation de la permanence des soins, l'éducation à la santé et les actions de lutte contre la stigmatisation. Donc on a essayé de récolter des données sur les actions, des semaines d'information en santé mentale, des choses comme ça, mais ça reste très partiel. Et il y a un autre outil qu'on avait souhaité mobiliser, mais qu'on n'a pas pu intégrer dans un atlas qui se veut national, c'est Oscar Santé, qui existe dans certaines régions, et qui recense l'ensemble des actions de prévention. Alors, soit uniquement celles financées par les ARS, mais également, dans certaines régions, celles qui sont cofinancées ou pas du tout financées par l'ARS, d'ailleurs. Mais c'est un outil qu'on peut mobiliser pour voir un petit peu le développement des actions de prévention, notamment soutien à la parentalité, développement des compétences psychosociales qui sont, on va dire, dans des actions de prévention en santé mentale qui ont fait la preuve de leur efficacité. Et puis, on a mobilisé d'autres données sur les conseils locaux de santé mentale, les groupes d'entraide mutuelle, l'éducation thérapeutique qui pouvaient être développées sur les territoires. Donc, quand on a construit cet atlas, une des premières questions qu'on s'est posée, c'est à quelles échelles géographiques ? Parce que donc il y a les territoires de la loi. Donc, c'est vrai que dans la loi, on identifie différents niveaux géographiques. Donc, ce que la loi appelle zone de proximité, appelée secteur, mais qui la loi laisse la main aux établissements de redéfinir les secteurs au sein de leur zone d'intervention. Donc, là, il y avait une question de calendrier. En gros, pour le moment, il n'y a pas de recueil national. On ne sait pas si les établissements ont redéfini leur secteur. Donc, ce n'est pas une échelle qui était mobilisable dans le temps voulu, parce qu'il y avait cette contrainte de calendrier en disant, voilà, les acteurs ont besoin d'éléments de diagnostic assez rapidement, même si le calendrier glisse petit à petit. Il y avait donc les zones d'intervention des établissements de santé, mais que les ARS pouvaient également redéfinir depuis la loi de 2016. Donc, pour le moment, on n'a pas de découpage national qui remonte sur les zones d'intervention des établissements de santé. Donc, il y a les territoires de santé mentale, mais qui sont, j'ai envie de dire, en cours de définition actuellement sur le territoire. Donc, on ne pouvait pas attendre non plus leur définition. Les territoires de démocratie sanitaire, les groupements hospitaliers de territoire, les régions. Après, il y a les territoires d'observation, c'est-à-dire les territoires sur lesquels on peut disposer de données, à quelle échelle on peut les décliner, qui vont être variables selon les sources d'informations mobilisées. Donc, quand on a les données de l'INSEE, tout ce qui est, on va dire, indicateurs sociodémographiques, on peut descendre jusqu'à l'IRIS, donc des quartiers de 2000 habitants pour les communes qui font plus de 10 000 habitants. On a les zones PMSI pour lesquelles on peut décliner tous les indicateurs issus des PMSI et RIMP. On a les communes, les territoires. Alors, territoires de vie, c'est les bassins de vie redéfinis pour les zones urbaines, puisqu'on sait que les bassins de vie étaient assez mal, étaient peu pertinents pour les zones urbaines. Donc, du coup, les territoires de vie, c'est un mixte entre le bassin de vie amélioré pour les zones urbaines, on va dire, pour faire vite, et donc les départements ou les régions. Donc, en fait, notre choix, ça a été un peu un compromis entre ces contraintes de calendrier, la disponibilité de l'information. Mais au-delà de sa disponibilité, c'est aussi la pertinence et la fiabilité des indicateurs aux différentes échelles. Parce que souvent, les gens veulent des indicateurs à l'échelle la plus petite possible pour avoir un diagnostic plus fin. Sauf qu'en fait, il y a des données soit pour des raisons d'effectifs, soit par exemple sur les données l'offre d'un établissement de santé. Bon, alors au niveau national, on n'est pas capable de la décliner par secteur de psychiatrie, par exemple. Mais en gros, elle peut couvrir, elle dessert une population plus vaste que ça, potentiellement sa zone d'intervention, ou notamment le cas des cliniques privées. On ne peut pas rapporter les lits d'une clinique privée à une zone d'intervention, comme dans le secteur public. Ou on va le voir pour certains indicateurs qu'on mobilise, voilà, il faut avoir en tête que si les effectifs sont faibles, la fiabilité de l'information est peut-être mise en question. Il y avait l'idée de pouvoir comparer les données d'un territoire à une moyenne régionale et nationale et de décliner l'indicateur à différentes échelles. Donc on a choisi pour la plupart des indicateurs qu'on a construits, soit les communes ou territoires de vie, on va dire pour les données sociodémographiques ou le contexte territorial ou la localisation de certaines offres de soins ou d'accompagnement. Et pour le moment, les départements pour les indicateurs d'offres, de recours, ce que j'ai appelé de parcours, sachant que l'idée à terme, c'est qu'une fois que les territoires de santé mentale seront définis, que ces indicateurs puissent être recalculés au niveau des territoires de santé mentale. Donc ça, je l'ai déjà un peu abordé. Donc ensuite, c'était quelles données et quels indicateurs. Donc on évoquait la question des besoins, j'ai mis entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on sait que la mesure des besoins dans le champ de la santé et de la santé mentale, c'est quelque chose de difficile à aborder. On n'a pas d'indicateur de prévalence en population générale des troubles de santé, des troubles psychiques. Donc, mais par contre, dans la littérature, on sait qu'il y a certains facteurs de risque qui sont associés à une plus forte prévalence des troubles psychiques, comme la précarité, l'isolement social, l'émigration. Le fait d'avoir sur son territoire plus d'établissements, on va dire, type CHRS, centre d'accueil des demandeurs d'asile, peut générer des besoins en santé mentale plus importants. Les données sur la protection de l'enfance, des données de l'administration pénitentiaire. On a essayé, de mobiliser à la fois des indicateurs classiques et des indicateurs plus synthétiques, comme les indicateurs de défavorisation ou de fragmentation sociale. Des données de mortalité, éventuellement. Sur les ressources et l'utilisation des services, donc comme je disais, dans les grands secteurs qui sont mal identifiés par les données, il y a le champ de la prévention, donc avec Oscar Santé que j'ai cité, qui permet de l'aborder un petit peu. Je crois que c'est les trois quarts des régions qui disposent de cet outil, mais qui est inégalement rempli selon les régions. Mesurer les ressources et l'utilisation des services du champ sanitaire, là on a pas mal d'informations côté SNIRAM. Côté RIMP, PMSI, des différents champs hospitaliers. Côté offre, on a l'enquête, la statistique annuelle des établissements de santé, le répertoire des professionnels de santé pour l'offre libérale. Dans le champ médico-social, on est un peu moins doté en matière d'information, mais on a essentiellement des données d'offre, on va dire. Idem pour le champ social. Donc après, on a fait des recueils spécifiques. L'accessibilité, donc on la mesure à travers des indicateurs classiques de densité, l'accessibilité potentielle localisée, qui est une densité améliorée, qui est de plus en plus utilisée, notamment dans le découpage des zonages déficitaires pour les professionnels de premier recours. On a aussi calculé des temps d'accès aux unités d'hospitalisation, par exemple. On n'a pas pu calculer l'équivalent pour les CMP, parce que les CMP sont très mal recensés au niveau national en termes de localisation, on va dire. On a aussi l'ouverture horaire des CMP qui permet d'apporter l'accessibilité, on va dire, dans la journée. Et après, on a essayé de construire donc, des indicateurs de coordination, continuité, parcours. Donc des indicateurs classiques d'admission par les urgences, de réhospitalisation, mais aussi, c'est là où on essaye d'exploiter les données de l'assurance maladie sur les délais de consultation après une sortie d'hospitalisation, la part de patients sans médecin traitant, la part de patients qui n'avaient pas eu de suivi spécialisé en amont d'une hospitalisation ou en aval d'une hospitalisation, les situations qui peuvent relever d'une situation inadéquate, les délivrances de médicaments qui seraient inadaptées, par exemple avoir moins de 4 délivrances d'antidépresseurs après une sortie d'hospitalisation, l'accès aux soins somatiques et à la prévention. Enfin voilà, on essaye d'aborder tout ça. Et pareil, un des grands défauts aussi du système d'information, c'est tout ce qui relève de l'inclusion sociale, l'accès au logement, l'accès au travail. Toutes ces données-là, on n'a absolument pas d'informations, en tout cas dans le système d'information national. Donc l'Atlas, on l'a construit en chapitres thématiques. Et cette déclinaison, on va la retrouver à la fois sur la version cartographique, là, qui est numérique, et c'est celle qu'on est en train de rédiger pour la version ouvrage. Donc on a des données sur le contexte territorial, à la fois des données, on va dire, classiques de démographie, des données de géographie, mobilité, notamment la part de la population qui utilise les transports en commun. C'est essayer de mesurer l'accessibilité géographique et les moyens de la population de se déplacer, on va dire. Des données de précarité, de chômage, d'isolement, la qualité de vie des territoires. Bon, c'est un indicateur synthétique construit par l'Observatoire des territoires. On qualifie naturellement l'offre de santé, alors santé au sens large, l'offre des établissements de santé, l'offre de ville, l'offre médico-sociale. Alors ce qu'on appelle initiative communautaire, c'est pas le terme approprié, mais du coup à l'intérieur on met à la fois les groupes d'entraide mutuelle, les conseils locaux de santé mentale, comme je disais, les programmes d'éducation thérapeutique, je sais plus ce qu'il y a, mais il y a d'autres choses à l'intérieur. Et les équipements spécifiques, là ça va être, on va dire que ça va des unités pour malades difficiles aux EMPP, aux équipes mobiles, psychiatrie, précarité. Voilà. Et donc après, on a des entrées populationnelles. Donc un chapitre sur les enfants et adolescents, avec du coup des indicateurs spécifiques en termes de contexte ou de besoin. Je vous citais les données sur la protection de l'enfance, qu'on va retrouver ici, de recours aux soins, d'offres de soins et d'accompagnement donc spécifiques pour les enfants et adolescents. Un chapitre sur les personnes âgées, avec la même déclinaison, contexte, vieillissement de la population, pourcentage de personnes âgées isolées, enfin des indicateurs classiques, recours aux soins, offres de soins et accompagnement à destination des personnes âgées. Un chapitre sur les personnes détenues, qui nous pose plus de problèmes, parce que souvent l'offre, elle n'est pas départementale, elle est plutôt à un périmètre plus large. Et après, on a deux chapitres sur la population adulte. Bon, ce sont ceux où il y a le plus d'indicateurs disponibles. Donc c'est sur les 18-64 ans où on a séparé. Donc ça a été décidé avec le centre de preuve en psychiatrie et santé mentale et à partir des données de la littérature aussi, en disant que c'est vrai que souvent on calcule des indicateurs toutes pathologies confondues. Or si on regarde les indicateurs, enfin en gros c'est pas les mêmes besoins, c'est pas obligatoirement la même offre qu'on met en regard des personnes qui ont des troubles mentaux modérés et fréquents et celles qu'on met en regard des personnes qui ont des troubles mentaux sévères et durables. Et c'est vrai que c'est assez intéressant souvent de regarder la valeur des indicateurs pour ces deux groupes populationnels, parce qu'il y a des vraies différences et ça permet peut-être davantage des difficultés chez les personnes qui ont des troubles mentaux sévères et durables, par exemple. Notamment, j'ai en tête l'indicateur sur la part de la population sans médecin traitant. Ça veut dire que c'est 15% de la population au niveau national souffrant de troubles mentaux sévères et durables qui n'a pas de médecin traitant. C'est 6% si on le décline seulement sur ceux qui ont un trouble modéré et plus fréquent. Donc pour ces deux sous-populations, on a développé pas mal d'indicateurs donc sur le recours aux soins, à la fois en ville, en établissement de santé, sur la consommation de médicaments, avec justement des indicateurs qui essayent de mesurer l'adéquation de la... Alors c'est pas la prescription qu'on mesure dans les données, puisque c'est le fait d'aller récupérer ces médicaments dans la pharmacie, parce que c'est les données de remboursement, les données de l'assurance maladie. Des indicateurs relatifs aux prises en charge ambulatoires et en hospitalisation en établissement de santé. Des indicateurs qui visent à mesurer l'articulation ville-hôpital. Donc là, c'est essentiellement tous les indicateurs de qu'est-ce qui se passe en amont, en aval de l'hospitalisation. Est-ce qu'on a pu avoir une consultation dans les 15 jours qui suivent la sortie de l'hospitalisation. L'accès à la prévention et aux soins somatiques. Donc là, c'est à la fois l'accès aux soins, on va dire, dentaires, gynécologiques, ophtalmologiques, dans l'année qui suit l'hospitalisation. L'accès à des bilans sanguins, hépatiques, électrocardiogrammes. Enfin, on a décliné plusieurs indicateurs. Les indicateurs d'accès à vaccination, dépistage, ce genre de choses. Pour les troubles mentaux sévères, on a des données sur les soins sans consentement. Et après, on a aussi des données sur taux de recours en établissement de santé pour tentative de suicide, soit le taux de mortalité par suicide, mais on a aussi l'âge moyen au décès des personnes qui ont des troubles mentaux sévères ou des troubles mentaux plus fréquents. Et du coup, on a calculé un indicateur qui mesure l'écart entre l'espérance de vie du département, puisqu'on sait qu'il y a de fortes différences d'espérance de vie entre départements sur le territoire, et l'âge moyen au décès des personnes souffrant de troubles psychiques sur ces territoires. Donc, pour la version de cartographie numérique de cet atlas, parce que c'est vrai que c'était important pour nous, au début, c'est vrai qu'il n'y avait que le projet d'ouvrage. Et on s'est dit, pour les acteurs, ce n'est pas très dynamique, parce que c'est important de pouvoir zoomer sur sa zone, de pouvoir actualiser les données, de pouvoir se comparer à soit des départements qui ressemblent à notre département, enfin, ou d'autres territoires qui ressemblent à notre territoire, soit un territoire plus macro. Donc, on s'est appuyé sur l'équipe d'Atlas Santé, donc, qui est, on va dire, hébergée par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un dispositif qui se met en place depuis quelques années, qui se veut collaboratif entre ARS, puisque généralement c'est chaque ARS qui intègre des données dans cette plateforme d'information géographique. Et sauf que là, ils nous ont proposé de créer un sous-domaine au sein d'Atlas Santé, du coup avec l'adresse que vous voyez. Donc, comme je disais, le site est ouvert, mais je ne vous conseille pas d'y aller obligatoirement dès aujourd'hui. Donc après, les données sont accessibles à toutes, et là, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, sachant que l'idée, c'est vraiment que ça arrive en complément de l'ouvrage qui paraîtra plus tard, mais il nous paraissait important de le mettre à disposition le plus tôt possible, même si l'ouvrage n'est pas finalisé. Donc, Atlas Santé, la plateforme santé mentale d'Atlas Santé, ça se présente comme ça. Ça utilise un outil que vous connaissez peut-être déjà de cartographie, Geoclip. Pour le moment, la page de présentation n'est pas complètement finalisée. Mais donc, ça vous permet, si vous allez sur afficher des cartes ou ouvrir la liste, de découvrir le... Alors, je ne sais pas si vous y voyez grand-chose. Mais en gros, on retrouve les chapitres et sous-chapitres que je vous ai cités. Et du coup, en allant à l'intérieur d'un sous-chapitre, vous allez voir apparaître la liste des indicateurs de ce sous-chapitre et pouvoir regarder à quel niveau géographique ils sont disponibles. Et vous allez ensuite pouvoir faire apparaître une à quatre cartes simultanément. Donc là, par exemple, à droite... un indicateur, je n'arrive pas à lire, je crois que c'est l'indicateur de défavorisation sociale, par exemple, sur la gauche, par contre, en bleu et marron, et à droite, c'est le pourcentage de ménages isolés. Là, c'est des indicateurs qui sont disponibles à l'échelle communale, mais que du coup, on peut aussi cartographier à l'échelle départementale ou régionale. C'est un outil qui vous permet, le temps d'accès par la route à l'unité d'hospitalisation temps plein la plus proche pour la psychiatrie générale. C'est un outil qui permet de zoomer sur votre territoire ou de remonter à une échelle géographique. Et par exemple, la carte à droite, c'est la proportion de population à plus de 45 minutes d'une unité d'hospitalisation par département. Donc, on voit qu'il y a de fortes disparités selon les territoires où l'on se trouve. Donc après, vous avez plein d'outils, ça je vous laisserai découvrir, mais c'est vrai que c'est pas... obligatoirement très bien fait sur Atlas Santé pour savoir comment manipuler, enfin circuler sur la plateforme. Mais en gros, vous avez évidemment toutes les possibilités de changer l'affichage, de modifier la discrétisation, c'est-à-dire le découpage des classes. En général, on a fait des quintiles, mais ce n'est pas toujours pertinent de faire des quintiles. Par exemple, quand on représente la densité de lits de cliniques privées, il y a 40 départements en France où il n'y a pas de clinique privée. Du coup, un quintile va comprendre 20 départements où il y a zéro clinique, où il n'y a pas de lits de clinique privée, mais le deuxième quintile comptera les mêmes observations, donc c'est pas toujours pertinent. Donc vous avez pas mal de liberté pour choisir d'autres types de discrétisation. Il y a des informations sur les bases de données mobilisées, les indicateurs qui sont décrites, et ça c'est ce qu'on espère aussi finaliser d'ici le 15 octobre, c'est qu'on mettra à disposition un guide précis des indicateurs, parce que c'est vrai que l'idée c'est que les gens, s'ils veulent les décliner à un niveau encore plus fin au niveau de leur établissement ou de leur secteur, ils puissent le faire. Donc il y a vraiment cette dimension pédagogique pour que les gens s'approprient l'ensemble des données disponibles. Donc bien sûr, il y a la possibilité d'exporter les cartes ou les données qui sont contenues, donc à différents niveaux géographiques. Et une des fonctionnalités qui n'est pas encore finalisée, c'est la production de ce qu'ils appellent des rapports de territoire. Donc là, il s'agit de cliquer sur un... Pour le moment, ce sera disponible qu'au niveau départemental ou régional ou une agrégation de départements. Mais pareil, l'idée, c'est que quand les territoires de santé mentale seront définis, ça pourra être fait au niveau des territoires de santé mentale. Et ça vous sort un rapport avec une sélection d'indicateurs et sa comparaison par rapport à la moyenne régionale et la moyenne nationale. et qui reprend les différents thèmes, sachant qu'il y aura deux rapports de territoire, un rapport de territoire qu'on appelle population générale, enfin c'est plutôt population adulte, et un rapport population spécifique où on retrouvera les indicateurs spécifiques des enfants adolescents, personnes âgées et populations vulnérables, bon, essentiellement des indicateurs relatifs aux détenus. Donc l'idée, c'est en effet de mettre à disposition de nombreux indicateurs au service des acteurs de santé mentale et des citoyens, sachant que, voilà, comme on disait, les diagnostics ils doivent être établis par l'ensemble des acteurs de santé d'un territoire. Donc ça, je l'ai déjà un petit peu dit, il y a des indicateurs classiques de densité d'équipement, de professionnels, de caractéristiques sociodémographiques, des indicateurs synthétiques de défavorisation sociale, de fragmentation sociale, ça sert davantage à mesurer la faiblesse des liens sociaux sur un territoire, de qualité de vie. On a également fait une typologie de l'offre de santé mentale à l'échelle des départements qui... C'est une analyse, on va dire, une classification qui reprend un petit peu l'ensemble des indicateurs, enfin pas l'ensemble, mais une sélection des indicateurs d'offres à la fois hospitalières, de ville, médico-sociales, des territoires. Et des indicateurs, alors j'ai mis innovants, mais c'est peut-être pas le terme, mais c'est que des indicateurs qui sont moins facilement disponibles, on va dire, pour les acteurs d'un territoire. Donc que ce soit les temps d'accès à certains services, que ce soit tous les indicateurs qui mobilisent les données de l'assurance maladie, puisque même si ces données commencent à être plus disponibles, elles ne sont pas faciles à exploiter. Donc voilà, tout ce qui est indicateurs qui cherchent à mesurer l'articulation ville-hôpital, la continuité des soins, l'accès à la prévention et aux soins somatiques, les données de mortalité, ça provient également des données de l'assurance maladie, et ce côté entrée populationnelle qui nous paraissait pertinent, parce que c'est vrai que sinon on a souvent tendance à faire des diagnostics toutes populations confondues. Or, ce n'est pas les mêmes problématiques qui se posent aux différentes tranches d'âge ou en fonction de la sévérité des troubles. Et oui, l'outil, alors là, ce n'est pas spécifique à cet atlas santé mentale, mais l'outil de cartographie utilisé, il permet également d'importer si vous avez d'autres données ou si l'ARS avec laquelle vous travaillez a d'autres données, elle peut également les importer et les représenter cartographiquement sur cet outil. Donc là, c'était... Du coup, vous n'allez pas voir grand-chose. C'était pour présenter quelques exemples des indicateurs qui sont moins classiquement utilisés. Donc là, si j'y vois... Là, c'est bon, c'est des données nationales, mais c'est pour vous donner une idée. Par exemple, c'est des indicateurs qui vont nous indiquer qu'au niveau national, on a 43% de patients qui, à la sortie de l'hospitalisé pour des troubles mentaux sévères, qui ont eu une consultation, que ce soit auprès d'un médecin généraliste, d'un CMP, d'un psychiatre libéraux ou un acte à domicile dans les 15 jours qui suivent la sortie de l'hospitalisation. On a aussi des données sur la deuxième barre, c'est la part de patients hospitalisés pour des troubles mentaux sévères qui n'a pas eu de suivi spécialisé un an avant d'être hospitalisé pour un trouble mental sévère. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On avait calculé la proportion de patients hospitalisés ayant déclaré un psychiatre traitant, mais c'est 0,2% au niveau national, donc c'est pas un indicateur qu'on va décliner par département. Justement, les effectifs sont trop faibles pour ça. Donc je l'avais cité tout à l'heure, 15% des patients hospitalisés pour troubles sévères qui n'ont pas de médecin traitant. Voilà. Donc des exemples de représentation cartographique. Donc là, on voit pas du tout ce que c'est, mais je l'ai noté. Donc par exemple, la carte en haut à gauche, c'est donc... En effet, la part de patients hospitalisés pour des troubles sévères qui ont été suivis, qui ont eu une consultation ambulatoire dans les 15 jours qui suivent la sortie, et ça varie de moins de 30% dans les départements les plus clairs à plus de 50% des patients dans les départements en rouge foncé. Dans la carte de droite, c'est la part de patients toujours hospitalisés pour des troubles mentaux sévères qui ont eu un bilan sanguin, un bilan glycémie et cholestérol dans les 2 ans qui suivent l'hospitalisation. Au niveau national, c'est 44% des patients qui sont dans ce cas, mais c'est moins de 35% dans les départements les plus clairs et plus de 55% dans les départements les plus foncés. En bas à gauche, c'est la part de patients toujours pris en charge pour un trouble sévère qui a eu des actions type dépistage cancer du sein, cancer du col de l'utérus ou vaccination dans les 2 ans qui suivent. Et là, pareil, une variabilité entre territoires qui est de moins de 20% des patients dans les territoires les plus clairs, à plus de 30, enfin la variabilité est moins importante que pour les autres indicateurs, à plus de 30% dans les départements les plus foncés. Et la dernière carte à droite, justement, c'est l'écart à l'espérance de vie des... En gros, c'est le calcul entre l'espérance de vie par département et l'âge moyen au décès des personnes ayant des troubles sévères, qui est une donnée diffusée par l'assurance maladie, où on voit que ça varie de 10 à 20 ans, selon les départements, toujours plutôt vers 10 ans dans les départements les plus clairs à 20 ans dans les départements les plus foncés. Donc les perspectives, donc voilà, comme je vous disais, c'est un site qui est en cours de validation, finalisation, donc qui devrait être disponible dans les semaines qui viennent. Voilà, il est disponible aujourd'hui. Vous trouverez des erreurs, des choses comme ça, mais vous pouvez les faire remonter aussi. Mais c'est vrai que là, il bouge un petit peu tous les jours parce qu'on modifie des choses régulièrement. Et donc, ce qui est à venir, donc ce que je disais, c'est le guide des indicateurs, l'ouvrage donc qui est coédité par l'Adresse et l'IRDES. Donc, on ne sait pas si le nom sera Atlas de la santé mentale en France, mais finalisé aussi, qui devrait être disponible au premier trimestre 2018, qui lui se propose de faire un état des lieux actualisé sur les thématiques présentées, et puis du coup aussi de donner des données nationales qu'on ne peut pas décliner géographiquement, que ce soit des données de coûts, des données, on va dire, plus... Il y a vraiment une valeur pédagogique pour les personnes qui connaissent moins que vous, on va dire, le champ de la santé mentale, avec une partie analytique, en effet, de mise en lien des données qui sont présentées dans l'Atlas. Et l'idée de la version numérique, c'est en effet qu'il y ait une actualisation des données pour permettre un suivi, alors peut-être pas annuel, on peut être ambitieux, mais on verra ce qui sera possible, et surtout la déclinaison au zonage à venir des projets territoriaux de santé mentale. Donc voilà, donc c'est un ouvrage collectif, donc avec une équipe, quelques personnes au sein de l'IRDES, de l'Adresse, l'équipe Atlas Santé, plusieurs experts sollicités pour avis et relecture. Voilà, merci beaucoup.